6h05, lundi 14 juin. Bonne journée, bienvenue au 98.5 avec quand même ce matin un portrait météo qui fait contraste avec le week-end. Il a fait beau en fin de semaine, il a fait chaud. On se retrouve avec des averses qui devraient d'abord cesser dans un premier temps. Par la suite, ça demeure nuageux. 40 % de probabilité de pluie en après-midi et même risque d'orage. C'est le même scénario pour la soirée et la nuit. Maximum 24, l'humidex 29. Demain, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire des averses pour lancer la journée qui devrait cesser en après-midi. Un court dégagement par la suite et ça demeure nuageux pour la soirée et la nuit. 22 comme maximum, l'humidex 26. Et retour du soleil vraiment à compter de mercredi et ça se poursuit jeudi, 24 et 26 degrés. Juste un mot sur Kanisetake. Je peux comprendre les gens de la communauté Mohawk qui doivent faire face à des entrepreneurs de cannabis qui, évidemment, n'ont aucune considération sanitaire et qui veulent faire le party, puis on invite les gens, puis bon. Et c'est toujours pareil, tu sais, tu veux pas provoquer, tu veux pas avoir d'affrontement, tu as 400, 500 personnes qui sont là. Et l'approche de la police, c'est de dire, on va les attraper plus tard, puis ça serait bien peut-être de nous tenir au courant bilan, combien de personnes auront reçu des constats d'infraction. Et le maire a raison. Quand tu vas aux pommes puis tu stationnes sur l'accotement, tu reçois l'étiquette, là, puis tu iras expliquer ça après que là, oups, c'est un contexte différent. Quoi qu'il en soit, le Québec est maintenant en vert et en jaune, ce qui veut dire concrètement que pour Montréal, le Grand Montréal, là, maintenant, puisqu'on est en jaune, que les sports sans contact à l'intérieur sont autorisés à deux bulles à deux, là, ou encore en bulle familiale. On passe à 12 personnes, peu importe le lieu de résidence. Bref, on peut reprendre des activités sportives. Et là, on en parlait avec Alain, M. Legault, qui aimerait savoir plus de partisans du Canadien. Puis en même temps, en fin de semaine, vous avez des parents qui devaient rester à l'extérieur pendant que les enfants pratiquaient du sport à l'intérieur, genre patinage artistique, là. Puis ils ne pouvaient pas entrer. Puis là, tu veux mettre plus... Comprends que la science n'est pas toujours la principale motivation. Et là, il y en a appelé à la santé publique. C'est comme pour le match de ce soir. Les bars doivent fermer à 23 heures. En fait, arrêter de servir l'alcool à 23 heures, puis fermer à minuit. Puis là, on demande une prolongation, puisque le match de hockey est quand même plus tard. Pour ce qui est du masque en milieu de travail, ce n'est plus obligatoire. Dans la mesure où vous êtes capable de garder le 2 mètres de distance, ou encore s'il y a, je dirais, une espèce de barrière, un plexiglas ou autre. Alors, pas besoin d'avoir tout le temps le masque, mais évidemment, il faut être capable de garder le 2 mètres. Dans de petits commerces, vous comprendrez que c'est assez difficile. Pour ce qui est des rassemblements intérieurs, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut maintenant se retrouver en petits groupes de deux résidences à la fois à l'intérieur. Donc, ça va faire changement. Et on sait que les terrasses et les bars sont ouverts, même l'intérieur des restaurants qui rouvrent également. Puis là, vous avez toutes les mesures concernant lieux de culte, spectacle. Alors, c'est sûr que c'est un élargissement important des mesures avec cette décision. Et on verra à quel moment tout le Québec sera vert. Puis en même temps, surtout, cette espèce de préoccupation qu'ont beaucoup d'experts concernant le variant Delta qui augmente, sa circulation augmente dans plusieurs pays d'Europe. Je voyais ce matin que les dernières données britanniques confirment la supériorité de cette souche sur le variant Alpha en termes de diffusion. Et depuis 3 semaines, le nombre de cas de COVID augmente en moyenne sur 16 jours, passant de 2000 à la mi-mai à 6000 à peu près au début juin. Puis la semaine passée, on a grimpé jusqu'à 8000 cas. Donc le variant Delta, qui est originaire de l'Inde, est majoritaire et représente près de 74-75% des cas. Alors, ce n'est pas la situation ici, parce que le nombre de cas, vous voyez depuis quelques jours, est vraiment sous contrôle. Et c'est vrai aussi pour ce qui est des hospitalisations. Autre dossier, les paramédics qui sont en grève à Montréal-Laval depuis minuit. L'argent est en cause. Ce que je voyais, c'est que le normatif, ça semblait pas mal avancé, mais que là reste toute la question des salaires, des primes puis de la retraite. Alors, les services essentiels sont assurés, mais il faut évidemment avoir une attention particulière parce que c'est un service de pointe, un service majeur. Et ça a toujours brassé avec Urgence Santé, sauf que là, ils disent évidemment que, comme beaucoup d'autres syndicats dans le secteur public, que là, ils en ont assez puis qu'ils veulent avoir des propositions quand même sérieuses. D'ailleurs, vous regardez ça, là. On se plaint, avec raison, du manque de ressources. Hein? Il manque d'éducatrices dans les garderies. Il manque de spécialistes en santé. Je regardais ce matin le Journal de Montréal. Séquelles à prévoir chez les petits, les délais pour consulter un orthophoniste au Québec ont bondi depuis la pandémie. C'est vrai pour les psys, c'est vrai donc pour les orthophonistes. C'est vrai pour l'ensemble du personnel dans le réseau de la santé. C'est non seulement comment tu attires, mais comment tu gardes ces gens-là à ton emploi. Puis c'est plate à dire, mais le salaire est un facteur important. Et les travailleuses en garderie ne sont pas payées bien cher. Et aussi les conditions de travail. Il n'y a pas que la paye brute, mais il y a aussi une certaine qualité de vie. Puis on le voit dans les stratégies d'entreprises privées, ben c'est aussi vrai pour le réseau public. Supposément qu'on manque de médecins. Il y en a qui disent que non, mais la Fédération des médecins omnipraticiens dit qu'il manque. Puis il a toujours manqué 1000 médecins en gros, là. François Legault, vendredi, fait une sortie, puis il dit s'ils ne sont pas capables de prendre plus de patients, on va utiliser les sanctions, les pénalités que l'ancien ministre Gaétan Barrette avait prévues. Alors, on a eu droit toute la fin de semaine sur les réseaux sociaux à, disons, la réponse des médecins. Et évidemment, ceux qui répondent fâchés, ce sont des médecins qui travaillent beaucoup. Et ils ont raison de rappeler certains faits. D'abord, quand on parle du travail des médecins, il y a tout le travail, évidemment, en clinique, mais il y a la paperasse, il y a l'enseignement, il y a le travail en hôpital. Donc, il n'y a pas que les heures comptabilisées par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mais en même temps, c'est vrai, ça devient des choix de vie que des médecins décident de travailler moins, de faire des choix de famille, des médecins qui travaillent 70 heures par semaine. Il y en a probablement de moins en moins. Mais si on veut avoir un meilleur accès, est-ce qu'on doit former plus de médecins de famille, plus de médecins spécialistes également qui se partageront la même enveloppe? Alors, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y a pas mal de gris dans ça. Et je vais juste souligner une chose ce matin, qui pour moi montre à quel point le mammouth est incapable de faire avancer les choses. Vous êtes en attente pour un rendez-vous chez un médecin de famille et être pris en charge. Puis là, il y a toute la négociation là, sur la façon de rémunérer les médecins. L'autre jour, à cette antenne, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens nous parlait avec enthousiasme de l'orchestrateur. L'orchestrateur étant la plateforme qui permet de regrouper les différents logiciels de rendez-vous, puis c'est supposé être extraordinaire pour faire marcher, disons, le système justement de prise de rendez-vous. Bien, ça ne marche pas trop fort, l'orchestrateur. Pour vous montrer à quel point c'est un peu bizarre, d'abord, on avait la première version qui était Rendez-vous santé 1. Puis là, les médecins ne voulaient pas avoir ça. Puis ça, c'est une négo, là, parce que les médecins ne veulent pas indiquer les plages disponibles. Ils ne veulent pas que l'État détermine que font les médecins, combien d'heures ils sont, sont consacrés aux patients. Fait que là, on a dit, on va créer ça, l'orchestrateur, puis on va envoyer une nouvelle plateforme qui s'appelle Rendez-vous santé Québec 2. Tu as la version 1, puis tu as la 2. Eh bien, nous apprenons, mesdames, messieurs, que la 2 ne marche pas. OK? Et on revient à quoi vous pensez? À 1. C'est pas une farce, là. Alors, dans un courriel, force est de constater que la version 2.0 ne comportait pas toutes les fonctionnalités de la version 1. Et donc, il a été décidé de revenir à la version 1 et de demander à la RAMQ de mettre à niveau pour permettre le branchement à l'orchestrateur. Fait que ça ne marche pas. Il y a actuellement 28 cliniques qui sont revenues à la version 1 et il y a 400 cliniques qui utilisent la version 1. Voyez-vous le focoyage, la perte de temps. Et juste pour ajouter la cerise sur le sundae, Québec va verser un montant de 3 600 $ à raison de 600 $ par mois pendant 6 mois aux médecins, savez-vous pourquoi? Pour un forfait leur permettant de se familiariser et de gérer le changement. Hey, ils sont incorporés. Je veux dire, ils se prétendent être des entreprises pour la plupart. Puis là, l'État va payer 600 $ par mois pour leur... C'est à part les autres factures payées par l'État. Fait que je comprends des médecins qui sont tannés du docteur bashing, mais il y a un petit ménage à faire dans leur cours quand même, avec toutes ces patentes-là. Puis dans le cas de l'orchestrateur, là, comptez-vous pas d'histoire, là. Ça, c'était une patente créée par Québec parce qu'on a voulu acheter la paix avec les médecins concernant la gestion des rendez-vous. Ce qui n'enlève pas le fait que des médecins travaillent beaucoup, ce qui n'enlève pas la qualité des actes professionnels, ce qui n'enlève pas leur compassion face à leurs patients. Mais quand tu lis ça, c'est, disons, assez frustrant comme contribuable. En fin de semaine, Drummondville, une voiture fonce sur un arbre. 5 jeunes sont dans l'auto. Il est à peu près 1h30 du matin. Alcool, peut-être d'autres substances en cause. Bref, faculté affaiblie. Et il y a un jeune homme de 17 ans qui est mort et le conducteur qui est accusé dans cette affaire-là. Heureusement, les autres personnes ont été blessées légèrement. Ça m'a rappelé, évidemment, la tragédie. C'était le 10 octobre 2010, c'était le week-end de l'Action de grâce. 4 jeunes se trouvaient dans un véhicule, sortaient d'un party, avaient consommé trop d'alcool. Il y avait un conducteur qui s'appelle Karl Franker Ouellette, qui a donc péri, et les 3 occupants du véhicule, Jean-Benoît Pelletier, Gabriel Savard et Alex Jutras-Lisotte. Le coroner Yvon Garneau avait enquêté et avait émis une série de recommandations, notamment l'imposition d'un couvre-feu. Et on a vu par la suite certaines mesures plus restrictives qui ont été imposées aux conducteurs, aux apprentis, aux jeunes concernant la tolérance zéro face à l'alcool. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'accidents qui impliquaient de jeunes conducteurs qui étaient surreprésentés dans les bilans et qui le seront toujours par définition, mais disons qu'il y a des années où c'est encore plus frappant. Alors, on va parler avec le coroner Garneau. Mais je me souviens tellement de cet accident-là parce que j'avais rencontré les familles au cours du tournage du film. Et de voir à quel point, souvent, après un accident comme ça, les jeunes, les amis, les proches, je voyais les photos, les images, en fait, en fin de semaine, là, autour de l'arbre avec des fleurs, puis ils se prennent par le cou, puis ils ont de la peine, puis c'est compréhensible. Là. Mais ça prend pas beaucoup de temps avant qu'on retourne vers de vieilles habitudes, de consommer de l'alcool, de reprendre le volant en disant « ben là, je m'en vais pas très loin ». Et dans le cas de nos 4, ils avaient participé à une soirée de beer pong. Et il y en a qui ont consommé trop, puis d'autres qui se sont retrouvés en voiture. Puis tu sais comment c'est, une fin de party, ben... Donc, on va parler avec le coroner Yvon Garneau un peu plus tard ce matin. Aussi, je veux vous parler... Vous voyez les reportages en fin de semaine sur les écoles désuètes, là, tu sais? Puis comment rendre les écoles intéressantes? C'est sûr que ça coûte cher, la construction. Et savez-vous quoi? Avec tous les projets qui sont sur la place, le REM, les maisons des aînés, refaire les écoles, investir dans d'autres structures de transport, bien, il y a une pression qui est exercée sur les entrepreneurs pour ce qui est de la main-d'œuvre, puis en même temps sur les matériaux. OK? On sait tous, là, qu'il y a une augmentation substantielle du prix des matériaux de construction, des produits d'acier, pour faire la liste, là, ça, vous le savez. Puis combien de temps ça va durer, on ne sait pas trop. Mais là, beaucoup d'entrepreneurs qui font affaire avec le gouvernement, puis c'est le cas d'une compagnie qui s'appelle Structure Simcon à Chambly, qui est une PME familiale qui existe depuis 40 ans, qui a signé des contrats l'automne dernier pour construire, installer des structures d'acier. Et là, il se retrouve donc avec le prix qui a pratiquement doublé et le refus de Québec de payer la différence. Québec dit, on a signé un contrat à jouer avec vos troupes. Ce qui est moins vrai quand tu fais construire une maison puis que l'entrepreneur te refile la facture. Bref, eux prétendent que ça coûte au total, là, pour les contrats dans lesquels ils ont été impliqués, 700 000 $ de plus. Et pensent peut-être à être pratiquement obligés de se protéger des créanciers. Je ne sais pas si vous êtes dans ce domaine-là, mais j'aimerais savoir votre son de cloche. On m'explique qu'il y a de moins en moins d'entrepreneurs qui ont envie de présenter des soumissions dans le cadre d'appels d'offres. Il y en avait une dizaine, des fois il y en a deux, des fois il y en a quatre. Bref, il y en a pas mal moins qu'avant. Alors, on va en reparler un peu plus tard ce matin. Également, nous avons un sondage sur la paternité au Canada. Et les pères québécois sont des pères modèles. On voit que la culture, ça peut changer, ça peut évoluer. Au Québec, là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils se voient davantage profiter d'un congé parental. Pour eux, c'est important. Il y a quelques années, bon, enfin, un certain nombre d'années, c'est pas aussi clair que ça, mais là, les pères québécois jugent important d'avoir accès à des mesures de conciliation famille-travail, pardon, que les parents doivent travailler en équipe pour s'occuper des enfants, que c'est pas juste une responsabilité ou une charge mentale qui appartient à la mère, et qui se voit moins pourvoyeur comme, je dirais plutôt, éducateur, prise en charge de la vie d'un enfant. Il y a des changements ailleurs au Canada, mais disons qu'au Québec, c'est assez révélateur et c'est rendu public aujourd'hui. Le G7, on l'a vu en fin de semaine. Alors, disons, il y a une entente entre les pays pour d'abord faire une véritable enquête sur l'éclosion de cette pandémie à partir de Wuhan. Alors, est-ce que les Chinois vont collaborer? Si on se fait la réaction ce matin, pas tellement. Et aussi sur les violations des droits humains et empêcher la Chine d'imposer sa puissance à travers le monde. Vous avez le G7 qui a le géant chinois devant et qui tente de le contenir, ce qui est pas clair. Et n'oublions pas qu'il y a cette rencontre entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine aujourd'hui. Donc, ils ont un ordre du jour assez serré. Juste en terminant, ce matin dans la presse, on nous explique qu'il y a des propriétaires lors de transactions immobilières qui ne paient pas la taxe de mutation, on appelle la taxe bienvenue, là. Pourquoi? Ben, ce sont des condos et plutôt que d'être des propriétés, ce sont des actions. Fait que tu vends l'action ou les actions, tu deviens propriétaire, ce qui te permet de ne pas payer cette taxe-là parce que ça reste à l'intérieur d'une entreprise. Bref, ça dure depuis des années et les villes perdent de l'argent. Moi, je serais curieux de savoir si vous avez acheté une maison récemment, le temps que ça a pris pour recevoir votre compte de taxe de bienvenue. Et j'en parle personnellement. Moi, ça fait un an et demi que je l'attends. Puis j'ai toujours poursu. Et je sais que dans d'autres villes, c'est la même chose. Tu sors de chez le notaire, puis on te dit, tu vas payer ta taxe de bienvenue, puis voici ses temps, puis la ville où, va t'envoyer ton compte. C'est parfait. Un an et demi après. Fait que là, ça braille parce que ça manque de revenus, mais ils ne sont pas capables de collecter la taxe de bienvenue. Je ne sais pas, dans votre coin, partageons vos expériences personnelles. Mais moi, je suis prêt à les payer, mais envoie-moi une facture. Je veux dire, c'est comme le minimum. Tu sais, cours pas après, là. Tu dis 6 mois, OK, il m'avait dit ça. 6 mois, peut-être. 8 mois, 9 mois, 1 an. Ça va faire 2 ans à l'automne, me semble, pour des villes assoiffées de revenus. 6h24. On va aller retrouver Marc. Problème au métro?